Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, et vous êtes en direct, et mon invité, il est au téléphone, vous êtes sur Radio Cause Commune, c'est le moment de Rayon Libre, cette semaine on va parler élus et vélographie. Mais avant, merci pour votre fidélité, vos messages, vos suggestions, merci pour vos likes sur les réseaux, sur les plateformes d'écoute, et oui, ça nous aide à émerger. Une autre façon de nous aider, c'est de surfer sur notre site cause-commune.fm et de cliquer sur don. Ils nous serviront à créer un deuxième studio pour plus d'agilité, pour plus d'accessibilité aussi, pour que nous puissions continuer à parler des communs. Voilà ce qu'on ne voit pas. La semaine dernière, j'étais au Rock d'Azur. Vous connaissez le Rock d'Azur? C'était la 41e édition. C'est à Fréjus, dans le Var. C'est l'un des plus grands rassemblements vélo de France et probablement d'Europe. Au départ, du VTT uniquement. Puis le positionnement a évolué. L'offre des courses proposées a évolué. Du gravel, du vélo de route, du trail, running. Il y a même eu du triathlon il y a quelques années. L'espace exposant, lui aussi, a évolué. Alors, je ne suis pas ce dinosaure qui a vécu ce Rock d'Azur depuis des décennies. Cette année, c'est la 5e ou 4e fois que j'y vais. Et oui, je vois du vélo de route, du vélo urbain, du VTT, du gravel. Évidemment, hein, le gravel et le VTT restent quand même les grands présents. Aller au Rock est intéressant aussi pour ce qu'il ne montre pas, ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas d'exposants outdoor ou running ou trail running. Est-ce un choix délibéré des organisateurs ou justement une commercialisation des stands qui souffrent d'une concurrence comme celle de l'UTMB qu'il y a eu il y a quelques semaines? Je ne vois pas aussi peu d'exposants pour des vélos pour enfants. Il y en avait les années précédentes. Cette année, je n'ai pas vu quelques gros acteurs dans l'industrie du cycle. D'ailleurs, une seule marque des Big Five, les miens en tout cas, avait des stands. Il n'y avait pas de Trek, point de Cannondale, point de Giant, Specialized était là. Pas de moustache, pas d'eau de fil, pas de Bianchi, pas de Look, pas de Gitane, pas de Peugeot. Est-ce que ça veut dire que 2025 est toujours une année difficile? Est-ce que ça veut dire qu'un tel événement est difficile à faire rentrer dans un budget marketing contraint? Pas de marque majeure dans le monde du trail running, pas de Salomon, pas de Hoka, pas de North Face ou autre Columbia. Je ne m'avance sur aucune conclusion, juste je m'interroge. Que signifient ces absences? Une piste, peut-être. Les bigs préféreraient-ils aujourd'hui investir dans le trade marketing, accompagner leur réseau de distribution, les Vélocis, quand au contraire, les marques émergentes sur le marché français se doivent d'être là pour montrer leurs muscles et leur offre pour décrocher de l'ouverture de compte au pluriel. Aujourd'hui, nous allons rester dans le sud avec mon invité. On va filer vers l'ouest, au sud de Perpignan. Il y a du sud de Perpignan avec Arthur Ducassis. Il est chargé de mission vélo sur la communauté de communes Sud-Roussillon. Lors d'une rencontre organisée par l'ARDEM et le programme A Vélo 3, il m'a raconté ce qu'il met en place, notamment une acculturation au vélo à ses élus. En les mettant en selle, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'organiser une visite d'élus sur un événement comme le Rock d'Azur? 100 000 visiteurs, 61 épreuves, 20 000 concurrents ou participants, qu'ils voient d'autres formes d'usage du vélo, d'autres populations, la force d'une industrie quand elle se réunit. Et quand on est en charge du vélo sur le sud Roussillon, est-ce pertinent d'aller visiter la Sea Otter à Gironde? Voyons donc tout cela avec Arthur qui vient nous parler de sa mission et surtout de sa vision et de ce qu'il fait. Il s'exprime en son nom et c'est cela qui nous intéresse. Bonjour Arthur, merci d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jérôme.
Arthur, ma première question, est-ce que vous connaissez, vous, à titre personnel, ces événements comme le Rock d'Azur ou la Sea Otter?
Oui, alors je connais le Rock d'Azur de nom, je n'ai jamais eu la chance d'y aller. Par contre, j'étais sur l'édition du Sea Otter 2024.
C'est intéressant parce que la question suivante que j'ai envie de vous poser, Sea Otter ou Rock d'Azur, peu importe, est-ce que vous vous dites, vous, que dans votre rôle de chargé de mission, et vous nous redéfinirez un peu après votre mission justement, est-ce que vous dites que amener une délégation d'élus sur un tel événement, ce serait une bonne idée?
Après y être allé, je me dis que ça pourrait être une bonne idée pour qu'ils prennent bien la mesure de l'ampleur de la demande et du marché vélo. Ouais. Parce que souvent on s'adresse à des gens, pour la plupart des élus, qui ne sont pas pratiquants, qui voient ça juste comme un loisir ou juste comme du sport. Et c'est vrai que quand on est sur un événement comme le Sea Otter, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de communautés différentes qui s'y rejoignent pour justement participer à cet événement, et ça peut faire une certaine prise de conscience de la part des élus, je pense.
Alors quand même, on va revenir un peu à entre guillemets à la base. Vous, Arthur Ducassis, vous pouvez juste nous dire quelle est votre mission et nous décrire un peu le territoire sur lequel vous êtes?
Oui, donc le territoire sud-roussien a été lauréat du projet à vélo 3 soutenu par l'ADEME en 2024.
Oui.
J'ai été recruté en tant que chargé de mission des mobilités actives sur le territoire.
Oui.
Et le territoire, c'est une communauté de communes, de 6 communes, dont la ville-centre et Saint-Cyprien, une station balnéaire.
D'accord. Et donc ça, c'est important parce que d'un côté, donc sur ces 6 communes, il y a la station balnéaire Saint-Cyprien où là, il y a des gros enjeux de saisonnalité et les 5 autres communes qui sont pas balnéaires et qui, pour le coup, sont moins soumises à des aléas saisonniers des vacanciers.
Exactement, ils vont avoir un petit peu de tourisme arrière-pays, on va dire, avec quand même une projection vers le littoral à chaque fois pour ces touristes, puisque l'essentiel des activités se déroule quand même sur le littoral.
Et alors, quand vous arrivez en 2024, hein, c'est ça que vous venez de me dire, quelle est la situation? Qu'est-ce que vous trouvez sur le territoire, sur cette communauté de communes? Ouais, on va parler là pour le coup plutôt de vélo. Vous trouvez un territoire et des élus qui ont compris et qui s'approprient ce sujet?
Alors je pense que en 2024, quand j'arrive, il y avait eu une certaine prise de conscience de la part des élus de l'importance du vélo, oui. Notamment suite au Covid,
oui.
Suite à la crise du Covid, parce que les gens chez nous avaient quand même beaucoup profité des extérieurs quand ils avaient le droit pour justement redécouvrir un petit peu des choses un peu simples, on va dire, du quotidien, et donc l'utilisation du vélo. Il y avait eu une accélération en termes de développement des pistes cyclables, mais peut-être un peu, pas dans le désordre, mais avec un manque d'harmonie sur le territoire.
Ouais.
Et ma venue, voilà, c'était très agréable parce qu'il y avait beaucoup de choses mises en place, mais peut-être un petit peu là, un rôle de chef d'orchestre depuis un an, pour que les choses se fassent un peu plus, de façon un peu plus harmonieuse.
Pour les coordonner un petit peu mieux. Et c'est ce que je disais un peu dans l'édito, en tout cas quand je précise comment on s'est rencontrés, c'est ce que vous me racontiez, vous mettez en place beaucoup d'actions. Il y en a une, moi, que je trouve hyper intéressante, c'est que vous créez, à l'attention des citoyens au départ, entre guillemets, des balades à vélo pour que les citoyens locaux puissent s'approprier le territoire et se rendre compte qu'il y a plein d'espaces où on peut aller pédaler d'une manière apaisée, que ce soit sur une piste cyclable ou pas, d'ailleurs. Mais que vous les emmenez pédaler sur le territoire, c'est ça, hein?
Exactement, on les amène pédaler sur le territoire, à la découverte des infrastructures déjà existantes ou futures qui sont en construction. L'idée, c'est aussi qu'il y ait un peu de pédagogie sur comment emprunter un chaussidou, comment oui. Passer d'une piste cyclable sur trottoir à sur la route, voilà. C'est des petits groupes pour vraiment pouvoir avoir des moments privilégiés avec l'usager qui, pour l'instant, sont souvent des personnes âgées.
Ouais.
Mais l'idée, c'est vraiment de développer ça à différentes communautés. C'est-à-dire, on va en novembre, on va proposer une sortie à tous les sociopros du tourisme pour justement qu'ils aient conscience de la chance qu'ils ont de travailler sur le territoire. On peut aussi décliner ça aux professions libérales qui sont sur le territoire,
ouais.
Aussi bien aux enseignants, enfin, sans faire de communautarisme, mais ça peut être intéressant en tout cas pour motiver la sortie.
Oui, et puis l'idée, c'est pas de faire du communautarisme, mais c'est, j'imagine en tout cas, quand vous vous dites, allez, on va s'occuper des professions libérales ou des enseignants ou des élus ou autres, c'est aussi une façon de dire, ils vont avoir les mêmes, ils vont poser le même regard, ils vont potentiellement avoir les mêmes questions et ils vont aussi, les échanges vont les nourrir dans la façon qu'ils ont, un, de voir leur métier et deux, voir le territoire.
Oui, voilà, déjà d'un point de vue logistique, ça ouais. sera beaucoup plus facile de les réunir sur ces moments-là, selon leur profession ou leur activité. Mais en plus, en effet, pour moi, ce sera plus facile de compiler leurs avis ou leurs remarques plutôt que de faire une grande sortie annuelle avec 400 usagers.
Ouais. Justement, ces sorties que vous organisez, c'est quoi? C'est des groupes de 10, 15, 20? C'est combien de personnes?
Alors, on se limite à vraiment 30 personnes sur ouais. l'inscription. C'est gratuit, bien sûr. Et l'idée, c'est de démarrer depuis notre maison du vélo récemment installée depuis la première semaine de septembre.
Ouais.
Qui se situe sur le littoral et sur l'Eurovélo 8.
C'est un conteneur, hein, c'est ça?
Ouais, c'est un conteneur maritime qui est autonome en électricité avec panneaux photovoltaïques sur le toit.
Donc il a été recyclé, ce conteneur. Donc vous me disiez, pardon, je vous ai coupé, il est posé sur l'Eurovélo 8 en bord de mer. Donc vous partez de là pour... et vos boucles, elles partent de là et elles reviennent là, j'imagine.
Mm-hmm.
Et ensuite,
exactement.
Et ensuite, vous faites le même itinéraire, peu importe les populations que vous avez.
Non, on essaye de varier. Donc, on va à la rencontre, ben, comme je vous ai dit précédemment, selon les avancées de certains chantiers. On a deux pistes cyclables sur site propre qui sont en train d'être, qui vont sortir de terre bientôt. Donc, on va à la rencontre des chantiers. On passe aussi sur différents thèmes. Par exemple, j'invite mon collègue du développement durable à accompagner une sortie pour qu'il puisse faire une petite intervention sur le trait de côte, qui est une question vraiment primordiale chez nous, avec la montée des eaux et la perte du littoral. En fait, on perd un petit peu la mer qui reprend un petit peu du littoral sur les côtes, avec donc la présence de dunes qui sont créées par la communauté de communes, des ganivelles en bois qui sont là pour protéger les dunes. Tout ça, ça s'est posé des questions pas mal à la population, qui sont plus le droit d'utiliser à certains endroits sur la plage, tout ça. Et donc c'est aussi pour lier l'utile à l'agréable, expliquer un peu tout ce qui se fait sur le territoire. Même, on a déjà fait une sortie pour expliquer la collecte des déchets, quoi, où on est passé à différents endroits.
Donc, en gros, là, ce que vous êtes en train de me dire, alors, on avait fait une émission sur ce thème-là il y a quelques années ou quelques mois, ce qu'on appelle, j'avais invité quelqu'un qui se présente comme vélographe, et donc qui, en gros, emmène des populations découvrir un territoire et qui vont parler, c'est ce que vous dites, du trait de côte, de la faune, de la flore, de comment, pourquoi il est aménagé, et pourquoi ce territoire est aménagé ainsi. La vélographie, c'est aussi faire de la vélo-histoire. C'est exactement ça, en fait, ce que vous êtes en train de faire.
Oui, c'est ce qu'on essaie de faire, alors à notre échelle, sans une ambition débordante, puisque les gens, la première motivation, c'est quand même de se réunir pour faire une sortie vélo, puisque c'est vrai qu'il manque peut-être sur le territoire une association qui autre que sportive pour regrouper ce type de personnes-là. Ouais.
Est-ce que, par exemple, il y a sur le territoire des associations, parce que notamment, c'est ce que vous disiez, vous êtes sur la mobilité active, est-ce qu'il y a des associations de randonneurs, de piétons qui vont se promener sur le territoire à pied?
Alors, il y a une association de cyclotourisme, un club de vélo, mais on n'a pas d'association, à ma connaissance, de randonnée ou de balade pédestre.
D'accord.
On a une association de longe-côte, puisque c'est très à la mode maintenant.
Donc, on marche dans l'eau, c'est ça?
Un territoire, on va dire, très attirant au niveau randonnée, puisque on est peut-être un des seuls endroits des Pyrénées-Orientales avec aucune dénivelée. On est vraiment sur un territoire très plat, littoral, quoi.
Plein. Ouais. Vous êtes dans la plaine et les Pyrénées sont pas très loin, mais elles sont un peu loin à pied, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. On peut pas partir de Saint-Cyprien pour aller la fin du massif des Pyrénées, là, c'est ça s'appelle les Alberts. On peut pas aller jusqu'aux Alberts à pied pour une sortie à la journée.
Ouais. Et pareil, ce que je trouve intéressant et pour le coup, ce que j'aimerais bien que vous me racontiez, c'est comment est-ce que ces populations accueillent, parce que vous me dites vous limitez à 30, est-ce que vous refusez du monde sur vos sorties à vélo?
Très peu. Il m'est arrivé de dire aux gens que peut-être 4-5 personnes à chaque sortie en leur disant que les mettant entre guillemets sur une liste d'attente. Et puis il y a souvent des défections, donc je rappelle les personnes. Mais on tourne quand même à 30. Les gens ont compris un peu le fonctionnement. Et si je vois que vraiment, je me suis laissé la possibilité que s'il y avait des personnes qui étaient restées sur le carreau tout le temps, de pouvoir peut-être dire à des habitués, est-ce que vous pouvez laisser votre place? Mais les choses se font très facilement.
En gros aussi, c'est quand même ce que, alors, votre métier au départ ou votre rôle de chargé de mission mobilité active, on pourrait imaginer que c'est surtout de coordonner des aménagements cyclables et donc de l'infrastructure, du dur, quoi. Et au fait, quand vous faites ça, vous faites autre chose, vous faites pas de l'infrastructure, vous faites de l'infraculture.
C'est ça, on fait un petit peu de l'animation, de l'infrastructure et de l'infraculture, exactement.
Ouais. Mais là-dessus, vous imaginez ou est-ce que vous ressentez que vous créez une sorte d'héritage malgré tout, que vous construisez quelque chose?
Ben, moi, j'ai la sensation qu'on est au début, en fait. On a une population plutôt vieillissante. J'espère qu'ils arriveront à transmettre un peu ça, puisque c'est vrai que ces sorties, elles sont proposées sur des journées où les gens travaillent, où les enfants sont à l'école. Donc, je compte beaucoup sur cette génération-là pour transmettre et que ça soit pas juste une sortie plaisir, mais montrer aussi que ça peut être des mobilités, des sorties qui permettent de passer d'un village à l'autre, d'une école à l'autre, d'aller se rendre au marché. à la piscine municipale, enfin voilà.
Et alors on va faire la pause musicale parce qu'il est déjà 14h14, on est en train d'écouter Rayon Libre, vous êtes avec Arthur Ducassis qui est en charge des mobilités actives sur la communauté de communes Sud-Roussillon, et après justement on parlera aussi de comment est-ce qu'on peut imaginer ou comment est-ce que vous pouvez imaginer organiser les mêmes types d'activités pendant la saison estivale pour vous adresser aux estivants. En attendant, on va s'écouter Gwendoline Pignata, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Te souviens-tu de cette histoire? Il était tôt, il était tard, pizza, induce et pack de cesse. Whisky, coca comme à la messe, tu dansais la macarena, la tête en haut, la tête en bas. Les poings serrés, la gueule en vrac, tu méritais des coups de matraque et ton prix pour une. Fallait pas sortir ce soir-là. Fallait pas sortir avec toi. Cartouche noire dans les rues sombres. Coup de schlasse et là tu tombes. Ils étaient trop nombreux pour toi. Fallait pas sortir ce soir-là. Fallait pas sortir ce soir-là. Fallait pas sortir avec toi. Fallait pas sortir ce soir-là.
Toujours sur Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.fm, un Rayon Libre dans lequel on peut entendre les cigales. On vient d'écouter Gwendoline et Pignata. On est avec Arthur Ducassis, chargé de mission mobilité active sur la communauté de communes de Sud-Roussillon. Justement, quand même, pour revenir là-dessus, vous me disiez, vous étiez sur un territoire 6 communes qui sont relativement, il y en a qui sont très saisonnières et d'autres moins. Quand même, pour que nos auditeurs puissent avoir une idée, Arthur, c'est quoi le nombre d'habitants à l'année et le nombre d'habitants que vous avez sur la saison?
Alors, la communauté de communes, il y a actuellement 25 000 habitants,
ouais,
sur les 6 communes. Saint-Cyprien compte un peu plus de 11 500 habitants. Ça en fait la troisième ou quatrième ville du département. Mais l'été, Saint-Cyprien, juillet-août, on est presque sur 100 000 habitants.
Ouais, donc ça fait x4. Est-ce que justement, et c'était une des questions que j'avais envie de vous poser, que j'abordais un peu avant la pause musicale, est-ce que vous imaginez organiser le même type de balade ou de découverte du territoire ou des aménagements cyclables existants et qui pourraient être faits sur une période estivale à l'intention des estivants?
Alors là, comme ça, quand vous me proposez ça, de suite, je pense aux
contraintes de la voiture.
Alors, ça n'engage que moi.
Ouais.
De suite, je pense aux commerçants qui,
ouais,
vont nous dire que ça va leur faire concurrence, en fait, avec des circuits proposés par des trottinette électrique, vélo, voilà, il existe une offre comme ça sur juillet-août sur notre territoire.
Ouais.
Donc ça pourrait faire un peu concurrence. Je sais que l'Office du tourisme a pendant quelques années proposé des circuits à la découverte du patrimoine. Alors c'était le patrimoine gastronomique, enfin culinaire du territoire, mais aussi au niveau du patrimoine culturel, églises et musées. Il y avait un circuit vélo comme ça qui était proposé avec la présence de d'animateurs, enfin d'historiens un peu de l'art qui venaient, des étudiants qui venaient pour encadrer la sortie, mais le vélo était un prétexte, quoi. C'était vraiment plus à la découverte du territoire. Oui, ça pourrait être imaginé, mais il faudrait trouver, je pense, un bon équilibre entre saisonniers et... On parle de saisonniers, des commerçants plutôt, et vraiment du service public. Quoi.
Mais est-ce que pour le coup, il n'y a pas autre chose qui peut être faisable? C'est-à-dire d'aller voir toutes ces entreprises qui proposent des balades en leur disant, mais... intégrer cette dimension du territoire cyclable dans vos promenades pour sensibiliser, pour faire découvrir, pour expliquer. Parce que là, pour le coup, on va parler de cyclotourisme et quand on va, et pour le coup, c'est mon introduction au Roc d'Azur ou le Sea-Otter à Gironde, c'est aussi une très belle façon d'aller découvrir un territoire. Quand on roule dans le massif de l'Esterel, par exemple, au Roc d'Azur, l'endroit est incroyable.
Alors, je pense que c'est un constat, ça on baisse pas les bras, mais je pense qu'on n'en est pas là, en fait, comme sur dans la région où se passe le Roc d'Azur. Il y a encore vraiment, il y a besoin que les commerçants, enfin, les saisonniers prennent vraiment conscience du potentiel du territoire. Ils commencent à peine à prendre les mesures de ce qu'est l'Eurovélo, par exemple. Ouais. Et c'est rigolo que ce soit aujourd'hui qu'on fasse l'émission, puisque demain, on a le bilan de fin de saison. Et je vais faire une intervention, justement, pour présenter les différentes activités qu'on a eues, les différents événements qu'on a proposés à la population, pour que s'en saisissent un peu. Et c'est à cette occasion que je leur propose de faire une sortie, pour que, justement, ils prennent un petit peu... la conscience et qui mesure l'ampleur de ce qui pourrait exister en termes de marché, quoi.
Oui, bien sûr.
Pour eux, ils vont voir ce côté-là. Mais moi, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'ils soient de plus en plus, entre guillemets, bike friendly, quoi.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, eh bien, alors justement, ça va être très intéressant, parce que la question que je vous pose, votre réponse spontanée de dire, mais il faut faire attention aux commerçants. Aujourd'hui, comment justement les commerçants, ils voient ce plan vélo, cette politique vélo, ils sont moteurs, ils sont demandeurs, ou ils voient ça encore un peu, ils ont besoin d'être acculturés?
Alors on est un petit peu sur des secteurs, si vous voulez, au niveau même du littoral, même de la commune de Saint-Cyprien. On va avoir le port, on va avoir les plages avec les clubs de plage. Donc ils ont chacun des besoins et des choses différentes. Par exemple, le commerçant qui a un club de plage, souvent à côté, à proximité, il a un grand parking pour aller à la plage. Ouais. Donc il y a des gens qui vont venir en vélo. Et il y a des parkings vélos qui sont facilement mis en place.
Ouais.
Et il va y avoir des parkings voitures. Mais par exemple, le port, très vite, il va être saturé au niveau véhicule. Ouais. Et je pense que c'est vraiment, au niveau urbanisme et tout ça, il y a vraiment quelque chose à faire d'un point de vue, par exemple, de ce port ou du centre-ville de Saint-Cyprien, dans le village, puisque on est saturé au niveau véhicule, voiture.
Ouais.
Mais... tout à la fois, on est encore sur une espèce de dépendance au parking, une croyance des années, je pense, un petit peu maintenant, qui sont un petit peu passées, où le commerçant croit encore que nos parkings, nos business, quoi.
Oui.
Et ça serait bien de... C'est un peu dur pour moi, pour le coup, je suis seul sur ça, j'aimerais bien, en effet, qu'il y ait des choses qui se fassent au niveau activité, business, pour prouver, pour montrer que c'est pas parce qu'on a un parking à 50 mètres pour les voitures que forcément le commerce fonctionne plus ou qu'on a la place de parking devant, quoi.
Ouais. Surtout si on met une heure pour faire les 5 kilomètres qui paraît entre le lieu de villégiature et le parking.
Exactement. Et puis, bon, là, les différentes études montrent que le commerçant qui, en fait, devant chez lui, il a 4 vélos, plutôt qu'un SUV qui lui cache la vitrine, bon, au final, et que la rue est apaisée puisqu'il n'y a plus de circulation, on s'aperçoit que ça attire une population de gens qui vont consommer et qui ont un pouvoir d'achat plus important. voilà, c'est vers ça que je pense. Il faudrait qu'on arrive à.
Bien sûr, j'entends. Avant de lancer la chronique d'Abel Guggenheim, on est toujours avec Arthur Ducassis. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut. Alors, ça, c'est presque de la prospective. Je ne sais pas du tout ce que vous allez me répondre. Est-ce qu'on pourrait imaginer de la mise à disposition de parcs vélos publics pendant une période estivale?
Ben justement, la question se pose sur le territoire. Moi, j'aimerais réussir à trouver un moyen entre une offre de location longue durée à la population sur l'année, qui pourrait se transformer en vélo en VLS, si vous voulez, pendant l'été. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et il faut par contre, il faut vraiment bien mesurer et ne pas se tromper au niveau des quantités et que ça soit utile. Ouais. Oui, je pense que le territoire pourrait s'y prêter.
Et puis je pense que c'est un truc qui n'existe pas et qu'il va falloir inventer. Mais c'est ça qui est magique avec le métier que vous faites aujourd'hui, Arthur. On va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim. Abel Guggenheim, il va nous parler de quoi aujourd'hui? Eh ben, il nous parle il revient sur l'épisode de la semaine dernière et puis il nous parle aussi d'aménagement cyclable, piéton et automobile. Abel, c'est à toi.
Bonjour. L'invité de Jérôme lundi dernier était un représentant de l'association 60 millions de piétons, Hervé Dupont. J'avais fait part à Jérôme de mon approbation de ce choix, à la fois d'inviter un représentant des piétons dans cette émission qui parle de vélo, mais aussi pour le choix d'Hervé que je connais pour l'avoir croisé plusieurs fois en réel et en virtuel. J'avais en particulier beaucoup apprécié les quelques mots qu'il avait prononcés lors de la séance du comité des mobilités actives de Paris Centre qui avait suivi la mort du jeune cycliste Paul Varry, membre lui aussi de cette instance, écrasé par un automobiliste. J'ai d'ailleurs bien apprécié ce qu'il a dit dans le courant de l'émission, mais j'étais surpris de l'entendre à la fin dire qu'il n'était pas du tout d'accord avec ce que j'avais dit dans ma chronique. Ne voyant pas avec quoi il pouvait être en désaccord, je lui ai écrit pour le lui demander. Après avoir à ma demande réécouté l'émission, et en particulier ma chronique, il a reconnu avoir fait une erreur et avoir parlé trop vite. Dont acte. J'essayais lundi dernier d'expliquer que l'introduction de nouveaux aménagements doit se faire avec prudence, progressivement, en ne brûlant pas les étapes. Mais j'observais aussi que de nouvelles habitudes, même si elles ne viennent pas spontanément immédiatement, cheminent petit à petit, et que par exemple, cyclistes et automobilistes ont progressivement appris à gérer les conflits aux intersections entre les voies de circulation générale et les pistes cyclables bidirectionnelles qui se sont beaucoup développées en France. Mais on a vu par contre se développer les conflits entre piétons et cyclistes. Pour les cyclistes, la création de voies qui leur sont réservées, sur lesquelles ne circulent pas de véhicules motorisés, est en soi une amélioration. Pour tout le monde, y compris pour les piétons, elles apportent évidemment des améliorations en termes de bruit, de pollution, de dangerosité, ce que traduit le terme de voies apaisées. Mais elles se traduisent aussi par une complexification de la perception de ces voies, en particulier par les piétons. Lorsque ces voies sont unidirectionnelles, elles se rajoutent aux autres sans en changer la physionomie générale, comme cela existe déjà à Paris depuis 60 ans avec les couloirs de bus. C'est déjà un peu plus compliqué lorsqu'il y a à la fois un couloir bus et une piste cyclable, mais cette situation est peu fréquente. Et on reste dans le schéma général appris à l'école, je regarde à gauche, je regarde à droite et ensuite je traverse. Mais c'est très différent dans le cas d'une bidirectionnelle latérale qui oblige à regarder successivement et dans un ordre variable dans plus de deux directions. On avait déjà expérimenté cette difficulté à Paris dans les années 2000 sur les boulevards de Port-Royal et de l'Hôpital avec des voies bus bidirectionnelles latérales. C'est vrai de la même façon avec des pistes cyclables, d'autant plus que, nous ne pouvons le nier, un certain nombre de cyclistes passent sans se soucier ni de la couleur du feu, ni, ce qui est bien plus grave, de la présence de piétons souhaitant traverser. Cette complexification est ressentie par la majorité des piétons comme négative par rapport à la situation antérieure et on ne peut leur reprocher, même si cette impression n'est pas confirmée statistiquement, de la ressentir comme une augmentation de la dangerosité. Parviendra-t-on à une atténuation avec le temps de cette conflictualité entre piétons et cyclistes, comme celle dont je parlais la semaine dernière entre cyclistes et automobilistes? J'aimerais finir cette chronique sur une note optimiste, mais je crains que ce soit difficile.
Merci beaucoup, Abel. Arthur, je suis encore avec vous. Une petite dernière question. Il nous reste une toute petite minute. Vous me disiez pendant l'émission que vous présentez demain un bilan d'action. Est-ce que vous avez un petit spoiler à nous donner? Est-ce que les résultats sont encourageants?
Oui, les résultats sont encourageants. Il y en a de plus en plus de touristes qui viennent en vélo, qui louent des vélos et qui font du vélo pendant leurs vacances. Donc oui, c'est encourageant. Et je pense que vraiment, il y a une prise de conscience que le territoire et que les vacances le bord de la Méditerranée à vélo sont très agréables.
Eh ben merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous pouvez partager, vous pouvez m'envoyer le résultat de ce que vous allez présenter. Promis, ça restera entre nous. Auditeurs, auditrices, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, à Arthur Ducassis, d'être venu au micro. Ça y est, ce rayon libre est terminé. N'oubliez pas, le vélo est une chance. Ce serait dommage de ne pas l'enfourcher. Restez sur 93.fm, Cause Commune, il est 14h30. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages et vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine.